Alors, on a une journée très remplie aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses que je veux partager avec vous, Yves aussi, parce que c'est un sujet, je sais, pertinent, c'est un sujet qui nous intéresse. Je sais, et moi, comme j'ai dit hier soir, j'aime parler de ça, parce que j'ai vu Dieu faire tellement de bonnes choses dans ma vie vis-à-vis ma sexualité et mon identité. Alors, on a chanté ce matin, hein? Je suis, c'est important de reconnaître qui nous sommes, hein, qui nous sommes en Christ. Alors, le titre de cette conférence est « Bien vivre notre sexualité en tant que chrétien ». Ça veut dire qu'on peut bien vivre notre sexualité, n'est-ce pas? C'est possible d'être libre, c'est possible d'être épanoui dans notre sexualité. C'est Dieu qui a, c'est son idée, hein, la sexualité. Comme je l'ai dit, il nous a créé les êtres sexuels, les êtres relationnels. Alors, tout ce qui est bon vis-à-vis notre sexualité, ça vient de Dieu. Et on peut le célébrer, ça. On peut dire merci pour la sexualité. Alors, mais je veux dire, ce n'est pas facile, par exemple, de bien vivre notre sexualité. Hier, on a parlé de toute la pression, toutes les difficultés, tous les obstacles, les fausses idées qu'on peut avoir, et je pense que vous avez bien identifié, hein, la pression hier. Il y a cette pensée, et ça vient encore tout de suite avec notre identité, que je suis, et ça c'est une fausse idée, que je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, je suis important, aimable, sexy, en tout cas toutes les choses. Si je suis comme ça, si j'ai les relations, les rapports sexuels, ou si j'ai une copine, copain. Hein, j'ai besoin de ça pour être quelqu'un. Et je veux dire, je crois que c'est une fausse idée. Que notre identité, et je vais revenir à ça à plusieurs reprises, notre identité principale, je crois qu'on peut trouver, c'est en Jésus-Christ. Que nous sommes ses enfants. Nous sommes son bien-aimé. Mais c'est difficile, je sais, je vais parler de ça, de recevoir ça souvent. C'est de vraiment approprier cette vérité de qui nous sommes vraiment. Alors, on n'est pas quelqu'un, je crois, parce qu'on a quelqu'un d'autre dans notre vie. Hein? Ça ne donne pas notre valeur. Et le contraire, c'est souvent on croit le contraire. On n'est pas bon, on n'est pas aimable, il y a quelque chose qui cloche, c'est ça qu'on a dit. Si on n'a pas quelqu'un dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous si on n'a pas le rapport sexuel. Encore, c'est une fausse idée, je crois. Et je veux revenir à toutes ces fausses idées et amène, je crois, au fur et à mesure, la vérité, pour que la vérité peut vraiment être, tu sais, on peut être approprié cette vérité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pression sur nous, sur vous, surtout, d'avoir des rapports sexuels. Alors, je pense pour les gars, il y a cette pression que c'est important pour vous de faire la conquête, hein, de conquérir des femmes et d'avoir beaucoup de femmes dans votre vie. Ça fait de vous les gars. Et dans certaines cultures, c'était mentionné hier soir, une, c'est pas suffisant. Il faut qu'on en ait plusieurs parce que ça nous montre qu'on est en plus gars, plus masculine. Et pour les femmes, il y a beaucoup de pression sur nous quand même d'être belle, attirant, séduisant et être capable d'être conquérie par des gars, capable de séduire et intéresser les gars. Et c'est toute une pression qui, comme je dis aussi, au niveau de notre apparence, c'est là où on a le pouvoir et ça amène toutes sortes de difficultés pour nous. Mais je veux aborder encore d'autres. Vous avez me donné beaucoup de bonnes idées hier soir, mais j'avais d'autres fausses idées que je crois qu'on est imbibé constamment de ces idées par la télévision, par l'Internet, en tout cas, tout le média social, par la musique. Alors, une chose qu'on croit aussi dans la culture, et lorsque je dis les choses sont dans la culture, c'est dans l'Église. Beaucoup de personnes pensent ça. Je ne peux pas contrôler mes attirances sexuelles et mes désirs sexuels, alors je ne peux pas. Et encore plus, je ne devrais pas. Hein? Je ne devrais pas contrôler mes désirs sexuels, ça peut être ridicule, mais même dangereux. Et les personnes me disent, c'est dangereux même, si on essaie de contrôler ou sublimer ou recanaliser nos désirs sexuels. Alors, je crois que c'est fausse. Et cette idée aussi, elle s'est venue hier, c'est ridicule si on n'est pas des actes, si on fait pas les actes sexuels parce que c'est un besoin fondamental. C'est comme l'air, hein? C'est comme l'oxygène. C'est normal, il faut qu'on le comble parce que c'est comme l'air. Comment est-ce qu'on peut vivre sans l'air? Alors, je reviens à ça. Sexe est mon droit fondamental. Est-ce que vous croyez ça? Sexe est mon droit fondamental. Je devrais combler mes besoins et faire du bien. C'est ça le message qu'on reçoit. C'est mon corps. Alors, je peux faire qu'est-ce que je veux avec mon corps, n'est-ce pas? Alors, je veux arrêter là. C'est vrai que c'est notre corps et on a besoin de protéger notre corps, notre espace personnel. On a besoin de protéger notre cœur aussi et mettre des bonnes limites. Et je vais parler des bonnes limites, hein, parce que de notre cœur vient aussi la source de la vie. Mais je parle de dans un sens un peu exagéré qu'on entend des fois dans les manifestations, que personne veut me dire quoi faire avec mon corps. C'est plus dans ce sens-là. Hein? C'est tous mes doigts, tout ce que je fais, c'est moi, mes doigts personnels. Alors, peut-être vous avez déjà vu des pancartes, en tout cas, j'ai vu ça. Ni Dieu, ni homme, ni pape, ni prêtre, ni pasteur vont me dire quoi faire avec mon corps. Alors, on veut une liberté complète à ce niveau-là. Et je crois, comme je t'ai dit, je veux répéter, c'est important de protéger nos corps et mettre des limites. Mais je crois qu'il y a un sens exagéré encore, peut-être dans la culture vis-à-vis nos doigts en général. C'est nos doigts, hein? On réclame toujours nos doigts. Et ça est venu plusieurs fois hier soir. Sexe est un acte banal. C'est banalisé complètement. C'est semblable à toute autre activité, tout autre loisir, tout autre divertissement qu'il y a dans la culture. C'est comme d'aller dans un concert de rock. Alors, je crois que c'est vraiment, on rit, mais je trouve que c'est vraiment malheureux. On en voit toutes les conséquences, surtout pour notre cœur, mais au niveau de la société aussi. Alors, je sais qu'on vit, et vous savez, qu'on vit dans une société qui est saturée par la sexualité. On ne peut pas éviter ça. Il y a les images partout, les messages qu'on reçoit constamment, comme je t'ai dit, à travers la télévision. Ouais, c'est plus Netflix et tout ça. Mais aussi, quelqu'un d'autre a mentionné ça hier soir, qu'on est vraiment enchanté et influencé par la célébrité, hein, dans la culture. On regarde des athlètes, les vedettes, les chanteurs de rock, en tout cas les personnes dans les films et tout ça, puis on leur donne beaucoup de place. Hein, on peut leur demander d'être les porte-parole pour n'importe quoi, même s'ils n'ont pas d'expertise. Et qu'est-ce que les... en tout cas, toi, tu sais de qui je parle. En tout cas, qu'est-ce que les vedettes, qu'est-ce que les athlètes, qu'est-ce que les chanteurs, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au sexe? C'est quoi le message en général? Ben oui, c'est correct. Je pense que c'est ça leur message. C'est correct si vous êtes prêts. Vas-y. Je pense qu'un autre mot qui est venu hier soir, une autre pensée, c'est que on est vraiment aller et découvre, tu sais? C'est ça qui est encouragé dans la culture, de découvrir, d'expérimenter, de ne pas mettre des limites. C'est ça qu'on a, tu sais, c'est ça que si tu veux être vraiment épanoui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors, est-ce qu'on peut juste regarder brièvement, pas longtemps, cette première image? Alors, lorsque je parle qu'on a banalisé la sexualité, qu'on est entouré complètement de les images sexuelles, ça c'est le couvercle de Playboy, le premier Playboy dans 1950. On parle de plus de 60 ans. Et là, on peut dire, bon, comment vous pouvez oser de montrer une couverture de Playboy dans un camp chrétien? Alors, je peux dire, voilà, si c'était 1950, je n'ose pas, c'est sûr. Je ne le mets pas sur un écran comme ça. Alors, c'est Marilyn Monroe, on sait, l'objet sexuel de l'époque. Alors, c'est sûr, c'est provocatif, je pense. Alors, mais on est tellement habitués, n'est-ce pas? Si vous regardez la publicité, on peut aller à la prochaine déjà. Si on regarde la publicité pour les jeans, buffalo jeans ou n'importe quoi, là. C'est beaucoup plus provocatif de ce que je viens de vous montrer. Ça nous montre jusqu'à quel point on est immergé, submergé, et ça ne se fait même pas un effet. On rit un peu parce qu'on voit tellement des choses, puis on ne réalise pas l'impact sur nos vies. Alors, combien de vous ici ont déjà expérimenté ou joué avec des grenouilles? Ah, ben là, c'est moitié-moitié. Quelques. OK, peut-être vous connaissez ça déjà. Oui, tu sais? Alors, j'ai vu des femmes et des hommes, là. Alors, je sais, notre garçon, il a fait ça. Mais pas ça, mais en tout cas, il a joué. Alors, si on met, apparemment, j'ai jamais fait, mais si on met une grenouille dans de l'eau bouillante, oui, le grenouille va avoir le réflexe de sauter tout de suite. Oui, il va se sauver. Mais si on met une grenouille, tu me confirmes ça, dans de l'eau tiède, puis on le réchauffe tranquillement, doucement, on élève la température graduellement, jusqu'à ce que ça vient pour bouillir, le grenouille ne va pas sauter parce qu'il est paralysé, il est engourdi, il n'a pas le réflexe de se sauver. Et qu'est-ce qui se passe? Il est cuit. Alors, c'est ça? Bon, merci. J'ai député, il y a les personnes qui travaillent en chimie ici, ou je ne sais pas. Mais c'est un peu comme pour nous. Hein? On est tellement submergé, entouré des images, les messages et tout ça, qu'on ne se rend pas compte. Et finalement, je pense que nous, on peut finir par croire les messages que je viens de nommer et les choses que tu as identifiées hier soir. On finit par les croire et on peut être cuit. Alors, on a besoin de réaliser et peut-être réveiller et de réaliser que nous sommes dans de l'eau bouillante dans notre culture. Hein? Alors, on a besoin de reconnaître ça et protège nos cœurs, nos corps, tout ça. Nos frères, nos sœurs, je pense que vous avez regardé le premier Thessalonians ce matin. Et la chose que je voulais vraiment que tu vois dans ce passage, c'est tout est important, hein? Mais ça dit, n'exploitez pas un frère ou sœur dans ce domaine. Protégez le cœur, les corps de les uns les autres. C'est ça que les choses que je pense qui devraient être la base ou le moteur qui nous motive, hein, pour garder pur en partie. Oui, c'est de nous protéger, mais c'est de protéger l'intégrité et la purité de les uns les autres, hein, de prendre soin de nos frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette même conclusion, est-ce que vous avez lu ça ou non. Alors, peut-être juste un autre exemple de comment on peut. Donc, je vais juste dire, dans notre culture aussi, qu'on voit maintenant le sexe, le rapport sexuel, comme un rite de passage. Ça veut dire qu'on a passé de l'enfance et maintenant je suis adulte. Oui? C'est un signe. Ça symbolise que je suis devenue mature, je suis un adulte dans notre culture. Je pense que dans d'autres cultures, il y a différents rites de passage, et des fois je lamente, hein, qu'on n'a pas plus de rites de passage dans notre culture. Comme parmi les Juifs, ils ont le bar mitzvah pour les hommes, c'est où ils, et pour les femmes aussi. Alors, on célèbre le fait, toute la communauté est là pour l'entourer, les personnes, et dire, oui, je reconnais que vous êtes devenu un jeune homme. Et j'ai entendu sur la radio dernièrement, il y a les jeunes qui cherchent ça, les rites de passage. Ils sont prêts d'aller aux États-Unis pour aller parmi les différentes cultures, puis aller dans la forêt, hein, tout seul, pour démontrer qu'ils sont hommes. Alors, je pense qu'on a besoin de certains rites de passage. Pour les femmes, dans les différentes cultures, lorsqu'on a nos premières règles, bon, c'est une célébration. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Le rite sexuel. Souvent, ça va avec la graduation. La graduation à l'école secondaire, au cégep, on dit, bon, OK, c'est en parallèle, on va avoir les rapports sexuels pour démontrer que je suis mature. Mais est-ce que vous pensez que ça prend une maturité d'avoir les rapports sexuels? Je pense pas. Je pense que ça prend beaucoup plus de maturité, maîtrise de soi, de cette pensée de penser à d'autres personnes. sais, d'abstenir, de garder nous-mêmes. Et je pense souvent, on va avoir les rapports sexuels, on n'est pas de tout prêt pour l'engagement dans une relation, et on n'est pas prêt aussi d'élever un enfant. Et ça, c'est un aspect, ça peut être la possibilité, si on a le rapport sexuel, c'est d'avoir un enfant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après, le grenouille, je ne me souviens pas. OK, on va juste laisser ça pour un moment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pression de l'extérieur, de la culture aussi, mais on ne peut pas nier, tu sais, d'avoir les rapports sexuels et les relations, on ne peut pas nier qu'il y ait les pressions internelles ou intérieures. Hein, aussi, on a des hormones et on a les désirs, et Dieu nous a donné des désirs, je crois aussi. Ce n'est pas pour haïr nos désirs. Je vais revenir à ça. Il nous a donné les désirs, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos désirs? C'est une autre chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup... Les hormones sont là, le désir, la pression ici intérieure d'avoir le rapport sexuel. J'ai lu un sondage qui disait que les hommes en bas de 60 ans, c'est la majorité ici, ils pensent à de la sexualité au moins une fois par jour. Et peut-être vous pouvez me dire, non, c'est deux fois, quatre fois, je ne sais pas. Et les femmes, il y a juste 25 % des femmes qui veulent avouer qu'ils pensent à le sexe une fois par jour. Et même les hommes plus âgés que 60, ils pensent à le sexe aussi, mais moins. Mais encore là, c'est deux fois plus que les femmes. Alors, c'est quelque chose qui est là, et je ne dis pas ça, pas du tout pour minimiser un sexe ou l'autre. Hein? Je crois que Dieu nous a créés différemment, et c'est bon, je veux célébrer ça qu'on est créés différemment, mais c'est une réalité. Mais même si que c'est là, c'est un désir, puis on a les impulses et tout ça, j'aimerais vous dire, si vous ne me croyez pas, mais que le sexe n'est pas un besoin fondamental. Ça veut dire que ce n'est pas comme l'oxygène. Tu ne vas pas mourir si vous n'avez pas les rapports sexuels. Et oui, Henri, mais je crois que beaucoup de personnes en pensent que c'est fondamental. C'est un besoin fondamental. J'ai besoin de ça pour mon épanouissement, pour bien vivre. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait les vœux de célibat, c'est d'être abstinent et d'être célibataire toute leur vie. Pas beaucoup parmi les évangéliques, mais je connais les catholiques et d'autres personnes qui ont vraiment fait un vœu pour toute leur vie, puis ils sont vraiment épanouis. Ils vivent des choses. Je ne dis pas ça que c'est facile, mais ils sont épanouis. Et je connais beaucoup de chrétiens aussi évangéliques qui ont fait ce choix d'attendre, ou tu sais, ils n'ont pas fait un vœu de célibat pour la vie, mais pendant qu'ils sont célibataires, ils ont dit, je veux être abstinent, et ils vivent bien. Ils vivent bien leur sexualité. Alors, on peut regarder à Jésus. Jésus était, c'est sûr, il était Dieu, mais il était parfaitement homme. Et lorsqu'il habitait ici, je crois qu'il était tenté dans toutes choses, mais il n'était pas marié, il n'a pas eu de relation sexuelle, et il était un exemple extraordinaire, savez, de quelqu'un qui était à l'aise avec sa sexualité aussi. Il a laissé les femmes s'approcher de lui et toucher ses pieds avec leurs cheveux parce qu'il, savez, il était sécurisé dans sa sexualité. Et puis, il y a d'autres personnes sûrement dans la Bible qui, Paul, qui n'était pas, je ne sais pas s'il était marié à un moment donné, pense pas, OK. Alors là, il n'a pas eu les relations sexuelles, je crois. Alors, Peter, on sait, il était marié. Alors, par contre, même si le sexe n'est pas un besoin fondamental, je crois que l'amour est un besoin fondamental. La connexion, l'appartenance, l'affection, l'affirmation, être avec d'autres personnes, ça, c'est fondamental pour notre bien-être. Ça veut dire, premièrement, tout de suite, on a besoin de Dieu, c'est sûr, Jésus, mais on a besoin les uns les autres. On a besoin de la communauté. Et je crois que c'est pour ça que les catholiques, ils réussissent bien de vivre leur célibat, d'être célibataires, parce qu'ils vivent souvent en communauté. Et c'est là où je pense qu'on a les choses à faire dans l'Église évangélique pour accueillir les célibataires, pour faire la place, un lieu de sécurité pour honorer le célibat. Alors ça, on va parler un peu plus ce soir, parce que je crois que c'est essentiel pour notre bien-être d'avoir cette connexion. Mais ça ne veut dire pas le rapport sexuel. Moi, je crois que sexe est plus, en lieu de dire que c'est un droit, un besoin, je crois que c'est plus un privilège, hein, plus un don que Dieu nous a donné. Parce que si vous croyez que c'est un droit, un besoin fondamental, et tu n'as pas le rapport sexuel, vous allez être frustré. Vous allez être frustré avec Dieu, vous allez être en colère même avec lui. Comment ça se fait que tu me prives de quelque chose de fondamental pour mon bien-être? Alors, si on voit ça plus comme un privilège, comme un don, comme quelque chose qu'il a réservé pour un certain contexte, on va être plus à l'aise. On va être plus à l'aise d'accepter et célébrer et de bien vivre notre célibat. Alors, je vais parler un peu maintenant, et je pense que c'est fondamental que je mette le fondement, de parler de qu'est-ce que moi, je crois, sont les intentions de Dieu pour notre sexualité. Comme je t'ai dit, je crois que c'est un don. Je crois que c'est quelque chose de positif. L'idée de la sexe, ça vient de Dieu. C'est pas l'idée de l'ennemi, c'est pas l'idée de l'adversaire. Hein? On pense des fois, on lui crédit, on donne l'adversaire le crédit pour les choses sexuelles. Tout ce qu'il peut faire, l'ennemi, c'est détruire. Dieu est créatif et l'acte sexuel est un acte créatif, génératif, qui fait du bien. Alors, ça vient de Dieu. Et je pense aussi le désir sexuel, c'est l'attirance qu'on peut avoir envers les unes les autres aussi, ça peut être une bonne chose. Ça vient de lui aussi, l'attirance qu'on a envers l'autre, parce que ça nous propulse en dehors de notre solitude. Parce que ce n'est pas bon pour l'homme ou la femme d'être seul. On a besoin les unes les autres. Mais ça ne veut dire pas qu'on a besoin d'être marié. On a besoin, par contre, d'une communauté. Alors, c'est quelque chose qui est bon. Sexe, c'est l'idée de Dieu. L'acte sexuel est profond et créatif. Je crois que Dieu nous a donné l'acte sexuel pour, premièrement, ou peut-être ce n'est pas en ordre, mais pour la procréation. On ne va pas oublier ça, hein? C'est pour avoir les enfants. Il nous a donné ça pour l'intimité parfaite. Et je crois que l'intimité, c'est le désir profond de Dieu. Hein? Et c'est là que l'ennemi, il veut toujours cibler l'intimité. Il n'a pas peur de d'autres choses, mais il a peur de l'intimité. Et il veut toujours mettre les barrières entre l'intimité, la vraie intimité, entre l'homme et la femme, mariés, entre Dieu et, nous, et nous-mêmes. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que glorifier Dieu, je crois? C'est l'intimité dans les bons contextes, c'est qui est approprié. Et l'autre but, je crois, ou d'autres raisons pour lesquelles Dieu a créé la sexualité, c'est pour le plaisir aussi. Je crois que c'est Dieu n'est pas contre le plaisir. C'est lui, justement, qui nous a créés avec les corps qui ont les zones érogènes, la capacité d'avoir un orgasme, tout ça, ça vient de lui. C'est pas une afterthought. En tout cas, c'est pas quelque chose. C'est dans ses intentions vraiment. Et l'autre chose que je trouve qui est merveilleux lorsque j'ai parlé de l'intimité, que je crois que l'acte sexuel est un symbole merveilleux de la relation entre Dieu, Jésus et nous, son corps. C'est vraiment pour ça que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de plus sacré, c'est plus précieux, c'est plus spécial que juste un autre loisir. Je crois vraiment lorsqu'un homme et une femme viennent ensemble dans le contexte de mariage, on représente pleinement cet échange ou cette intimité entre Jésus-Christ et l'Église. Et on a enseigné à Jeunesse en Mission dernièrement sur la sexualité et j'ai demandé les étudiants: est-ce que vous aimez les mariages? Est-ce que vous aimez les cérémonies de mariage? Est-ce que vous aimez ça? Certains d'entre vous. Ah non? Avant, j'aimais plus la réception. Maintenant, j'aime la cérémonie. Qu'est-ce que tu aimes des mariages?
La
Oui, c'est une réjouissance. Mais dans la cérémonie, qu'est-ce que tu aimes? Les vœux, oui. Souvent, c'est ça qu'on aime, hein? Les vœux. Est-ce que tu aimes le renseignement du pasteur? Même si c'est bon, qu'est-ce qu'on veut, c'est les vœux. Hein? On va entendre, « Ah, mais les femmes, fais un engagement envers les unes les autres. Hein? » Puis il y a une autre chose que moi, j'aime, et c'est lorsque le marié, lorsqu'elle rentre. Mariée, c'est ça? Et puis, bon, tous les yeux vont vers elle. Mais où est l'homme dans ça? Là? Il est là, il est déjà là. Et j'ai pensé à ça, il est déjà là, il prépare la place. Et il est là, il est excité, il attend avec tout le monde. Et là, la femme vient, hein, l'épouse. Et leurs yeux, ils connectent. Et il y a cette connexion d'amour, d'affinité. Et ça, on se réjouit. Et on vive la joie. Et ça m'a fait penser, waouh, c'est Jésus, c'est une représentation de Jésus en avant, hein, l'homme. Et qui, voilà, c'est l'épouse de Christ qui vient. Et qu'est-ce qu'on fait? Cette affinité, cette connexion, puis tout le monde est excité. Et je vois certains yeux ici. Oui. Je vois que peut-être c'est ça, tu voulais être marié, tu attends cette journée aussi. Hein? Alors, mais ça va aussi, vous savez, j'ai parlé de l'acte sexuel, mais encore, la sexualité, c'est beaucoup plus grande que juste l'acte. Hein? C'est aussi cet aspect relationnel. Mais si on veut vraiment comprendre bien l'intention de Dieu pour notre sexualité, je crois qu'on a besoin de commencer au commencement. Ça veut dire en Genèse. Et j'aime beaucoup ce passage. On peut apprendre tellement de Genèse 2, toute la création de l'homme et la femme. En Genèse 2, je ne vais pas lire, je ne vais pas aller décortiquer toute Genèse 2. Je vais juste lire le dernier verset. C'est Genèse 2, 24 et 25. Ça dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nous et ils n'avaient pas point honte. » Ça, c'est en Genèse, et je vais regarder ça dans un instant. Mais la chose qui je pense qui est importante de savoir, c'est aussi que Jésus, en Matthieu 19, et aussi dans Marc 10, 6, Jésus cite ces passages. Alors, c'est très important. Ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même, lorsqu'il a enseigné les pharisiens et ses disciples, lorsqu'il a parlé de divorce, il a cité ces passages très importants qu'on voit en Genèse, qui on peut voir beaucoup de choses vis-à-vis de l'intention de Dieu pour notre sexualité. Alors, mais Jésus a ajouté ça lorsqu'il a cité ces passages. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Puis il continue. Alors, il a pris ça pour acquis un peu, que tous ces auditeurs qui savaient déjà Genèse, oui, vous savez déjà que Dieu a créé l'homme et la femme, et vous savez déjà que l'homme devrait quitter sa femme et quitter sa famille. Non. qui devrait quitter sa famille d'origine et attacher à sa femme. Alors, vous savez ça déjà. Alors, puis après ça, il a ajouté ceci en Matthieu. Il dit, lequel, en Matthieu? En Matthieu 19, 4 à 5, Marc 10, 6, 7 à 9, et en Genèse 2, 24 à 25. Alors, mais Jésus a ajouté ça, que l'homme donc ne sépare pas à ce que Dieu a joint. Pas de séparation, comme je viens de vous dire. Alors, c'est important, ce passage qui dit que l'homme quittera sa famille. Je vais juste dire quelque chose là-dessus. Je pense que c'est important que lorsqu'on se marie, qu'on quitte notre famille d'origine, et forme et établit un autre foyer. Mais c'est très important la façon qu'on quitte. Parce que je connais beaucoup de personnes qui quittent en claquant la porte. Ils cliquent, ils quittent, puis il y a beaucoup de rébellion ou en tout cas de dureté dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues avec leurs parents. Puis ils disent, ah, c'est pas grave, je vais me marier et tout va être réglé. Hein? Tout va être parfait parce que je quitte la maison de mon père. Et c'est faux. Hein? Je pense que c'est très important, les conseillers primaritaires, mais comme nous, on a vu que si on a mal quitté la maison, on va projeter les choses sur notre partenaire, même deux semaines après. Hein? Et Yves peut me dire, Catherine, est-ce que tu peux faire telle affaire? Puis je dis, Yves, tu n'as pas mon père. Hein? Et vice-versa, et parce que j'ai une relation difficile avec mon père, que je n'ai pas résolue, et alors j'avais besoin de faire ça dans ma propre vie. On ne peut pas bien attacher à notre femme si on n'a pas bien quitté. Et je crois le plus possible pour vous, ce n'est pas toujours possible, mais le plus possible qu'on quitte bien avec amour et aussi avec la bénédiction de nos parents. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les cérémonies aussi hein, que c'est les pères qui donnent, c'est la femme, c'est avec beaucoup de bénédiction, avec beaucoup de joie. Alors, je pense que c'est important. Alors, je veux revenir à des autres places là, mais j'aimerais juste, si je peux mettre première chose, est-ce qu'on peut aller avec le PowerPoint maintenant? Juste le premier clic, parce que je vais essayer de construire un feu de foyer, hein, on est des poutres. Les choses. Alors, un cadre, parce que je crois que Dieu nous a donné un cadre pour où on peut bien exprimer notre sexualité pleinement. Alors, premièrement, je pense qu'il y a les limites, où il y a l'aspect de l'engagement. Pour moi, c'est, mais pas pour moi, pour Jésus. C'est dit, lorsqu'il dit que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint, hein, qu'il y a un engagement. Et premièrement, que lorsqu'on vient ensemble, un homme et une femme, c'est d'engager, lorsque je parle de mariage maintenant, d'engager de rester ensemble pour la vie. Et ça, c'est long. Hein? Pour la vie, c'est bon d'engager, pas juste de rester ensemble, parce que ça peut être terrible. Hein? Est-ce que vous connaissez les mariages pourris, les personnes, oui, ils ont fait un engagement de rester ensemble. Rester ensemble, mais aussi engager d'être fidèle. Il y a un engagement envers, tu sais, ton partenaire d'être fidèle, loyal, de pas le tromper, de pas le tromper dans tes pensées, de pas le tromper avec un partenaire virtuel sur l'ordinateur, pas de le tromper avec une vraie personne, l'homme ou la femme. Et je pense l'appel est également pour l'homme et pour la femme. Il n'y a pas de différence. Hier, on a parlé d'un standard double. L'homme peut avoir plusieurs femmes, femme non. Hein? Non. Je crois qu'en Genèse, on n'a pas regardé, mais Dieu a créé l'homme et la femme égales, égales en valeur, égales en dignité. Alors, on n'a pas de tromper ou maltraiter ou voir la femme secondaire lorsqu'on parle de la sexualité. Je sais qu'il y a quelque chose qui brise le cœur, c'est l'adultère, l'infidélité, la trahison dans un mariage. Et moi, j'ai parlé de moi-même hier, et moi, j'étais victime de l'adultère. Mon mari m'a quittée pour une autre femme. J'ai appris qu'il a eu, mon ex-mari, qu'il a eu plusieurs partenaires tout au long de notre mariage. Mais je ne suis pas innocente, je ne suis pas juste victime. Je me sentais justifiée aussi après ça, de commis l'adultère. Et souvent, c'est ça, on se sent justifié. Hein? Alors, si on est les victimes d'adultère, on se sent complètement abaissé, déchiré, comme quelqu'un nous a écrasé complètement. Mais si on est ce qui commet l'adultère, souvent on se sent justifié, on minimise, on pense que c'est pas si grave. Et je parlais avec quelqu'un hier aussi encore de cette idée au travail. Oui, les personnes, c'est facile, ils se trompent les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la confiance dans tel genre de relation. Hein? On sait si vous êtes de les familles où les parents sont divorcés et à cause de ça, c'est très, très difficile. Alors, l'engagement. Bien là, je viens. Pas juste l'engagement d'être fidèle. Pas juste l'engagement de rester ensemble, mais l'engagement de chérir l'autre personne, d'aimer, c'est de faire sortir le mieux en eux, de les bénir, de les encourager. Lorsque Yves et moi, on a fait nos vœux, c'est ça qu'on a essayé de dire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'Yves m'a dit, « Catherine, je vais être, oui, ton mari, mais je vais être aussi ton ami, ton frère. » Ça m'a parlé beaucoup parce que je dis, « Il va m'honorer, il va prendre soin de moi, on va être amis aussi. » Alors, c'est ça qui est important. L'engagement à tous les sens, de travailler notre couple, hein, de pas prendre ça pour acquis, d'essayer d'aller viser un mariage enrichi, pas juste médiocre. Alors, l'engagement. S'il est l'engagement, on peut être confiante, on peut être vulnérable, on peut faire tomber notre garde, nos masques et tout ça. Alors, c'est ça qu'on voit dans les Écritures. L'homme et sa femme étaient tous de nous, ils n'avaient pas point honte. Alors, on sait, ce n'est pas juste la nudité physique, c'est la nudité dans le sens que je peux exposer mon cœur. Tu sais, je peux être complètement vulnérable, je peux te montrer mes faiblesses. Alors, je sais que Yves est fidèle envers moi, ça veut dire pas qu'il n'ait pas des tentations. Mais j'ai beaucoup de confiance après 30 ans de mariage. Et j'ai confiance en lui parce qu'il était abstinent avant le mariage. Alors, je peux être vulnérable devant lui. Et lorsqu'on est vulnérable, c'est là où on vit une intimité. Hein? La vraie intimité, pas la pseudo-intimité qu'on voit avec la pornographie. Hein? Ça, c'est une vraie intimité avec une vraie personne. Mais c'est plus difficile d'atteindre ça. Alors, engagement. Un de les poutres, pilier, meilleur mot, ouais, pilier pour pour le rapport sexuel. L'autre, c'est, est-ce qu'on peut mettre le deuxième? Bon, monogamie. Ça veut dire pour moi, un homme, une femme. Ben, pas deux, pas trois, pas quatre. Alors, dans certains pays, il peut y avoir la polygamie, où vous pouvez avoir plusieurs femmes. Mais ici, en Occident, tu peux avoir plusieurs femmes aussi. Pas à la même temps, mais, tu sais, une divorce, deux, trois, quatre. Alors, c'est une autre forme hein, de polygamie. Mais je crois que l'intention de Dieu dès le début, et qui était répété par Jésus, c'est la monogamie. Hein? Une femme, un homme, pour la vie. Alors, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a toléré, il a permis la polygamie. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne en Genèse hein, pour voir qu'est-ce qu'est son vrai cœur. Alors, le troisième pilier, bon, non, c'est pas un pilier, c'était quoi? Ça, c'est une poutre. Poutre latérale, horizontale. Alors, c'est ça, je commence à construire un foyer, hein, un cadre. Et l'autre partie, je pense, c'est la complémentarité. Ça veut dire encore, Dieu a créé l'homme et la femme. Au début, il est dit mâle et femelle. Je crois qu'il est juste deux sexes. Je crois qu'il n'est pas trois, quatre, comme on dit maintenant, les transgenres et tout ça. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont nées peut-être avec deux types de... Le genitalia de l'homme et la femme aussi, à cause de peut-être les hormones, à cause de toutes sortes de raisons. Et ça peut amener une confusion, mais je crois quand même que Dieu a créé l'homme et la femme. Et son désir, son but pour nous, c'est qu'on se complémente les unes les autres. Pas qu'on complète les unes les autres. Je suis complète sans Yves, parce que mon identité est en Christ. Hein? On peut être complète en tant que célibataire. Mais je crois qu'on a besoin d'être soit marié ou travailler ensemble, hein? Faire des activités ensemble, hommes et femmes. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler, enseigner avec Yves. Il y a une complémentarité. Et pour moi, la complémentarité est que lui a quelque chose peut-être qui est différent que moi. C'est vrai qu'on est, on est semblable, mais on n'est pas identique. Il y a les différences entre les hommes et les femmes. Je me souviens lorsque je suis allée à l'université dans les années 70, là, j'ai pris un cours sur les différences entre l'homme et la femme et c'était défendu de dire qu'on avait des différences. Mais je crois qu'on a des différences. On exprime notre brisement différemment. Nos besoins, on a les besoins semblables, mais un peu différents aussi. Alors, on n'est pas identiques, on est différentes, on n'est pas pareil, on est égal. Mais lorsque je vois Yves, je vois l'autre. Je vois quelque chose de différent que moi. Et lorsque je suis avec Yves, je me sens plus femme. Et lorsque il était avec moi, je pense qu'il sent plus homme. Lorsque je suis... si je suis toute seule, je suis juste face avant moi-même. Ou si je suis juste avec une autre femme, c'est un peu comme un miroir. Alors, la complémentarité, c'est que je peux hausser. Je hausse la valeur de l'autre. Je fais... round out, c'est faire arrondir l'autre, c'est lorsqu'on parle de complémentarité. Et la meilleure façon que je peux exprimer ça, c'est si on considère les couleurs complémentaires. Et deux couleurs qui peuvent être très très belles. Le rouge, c'est merveilleux comme couleur. Mais mettre ça sur un côté d'un vert, ça dépend de la couleur de vert, et ça hausse la couleur de les deux. Hein? Ça, il y a une lumière, c'est plus brillante, les deux. Alors, je ne sais pas, j'essaie un peu aujourd'hui. Orange, oui, ça peut aller aussi. Est-ce qu'on se complémente aujourd'hui? Non, le vert. Des fois, on est... Des fois, on est habillé pareil. Ou même les chorales, peut-être vous connaissez plus les chorales. Hein? Alors, c'est merveilleux, je crois, lorsque les hommes et les femmes chantent ensemble. Il y a une harmonie. Et les hommes, ils couvrent les notes très haut, de la femme. Des fois, c'est merveilleux lorsque les femmes chantent et on veut entendre leur voix angélique. Mais des fois, ça vient un peu aigu après un certain temps. Alors, on veut entendre les hommes et puis ils viennent avec leur voix plus bas, puis j'aime ça. Mais à un moment donné, ça vient, ça peut venir pareil aussi. Alors, on est content lorsque les hommes et les femmes chantent ensemble et on couvre les notes haut et bas de l'un et l'autre. Et pour moi, c'est un exemple, c'est une image de la complémentarité entre l'homme et les femmes. On sait que c'est difficile des fois de décrire. Je sais qu'il y a une différence avec les hommes. Je ne peux pas toujours définir parfaitement. Mais on sent les différences. Alors, complémentarité. Alors, c'est ici, dans cette feu de foyer que, et on peut mettre la prochaine, que le feu peut brûler. Et ça, c'est quoi le feu? Ça représente ici notre sexualité, la passion, parce que c'est encadré, parce que c'est protégé, il y a une sécurité, ça fait du sens. Alors, c'est merveilleux lorsque le feu qui donne la chaleur et la lumière brûle dans la bonne place. Mais qu'est-ce qui se passe si ça brûle en dehors? Est-ce qu'on peut juste mettre la prochaine? OK. Ça va, on va venir à ça. En tout cas, je crois que c'est vraiment le terrain sain, le lieu sécuritaire où on peut exprimer pleinement notre sexualité, l'homme et la femme ensemble. Alors, la prochaine, ça parle de l'intimité. Comment on peut vivre et viser l'intimité. Si on peut aller à la prochaine, ça c'est le feu qui brûle dans la bonne place. Et je crois que Dieu nous donne beaucoup de liberté dans le mariage, qu'on peut être très créatif, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, très positif. Je sais pour certaines personnes qui, si vous étiez abusé ou vous avez eu des relations malsaines, des fois on entend ça puis c'est difficile et je reviens à ça. Mais Dieu nous donne de la créativité et je crois que dans le mariage, que le sexe est un privilège, c'est un don. Certaines personnes disent que c'est la musique de le mariage, c'est la couleur. Je ne crois pas quand même que c'est le fondement d'un bon mariage. Hein? On passe quoi? Combien de temps dans la chambre couchée ou ailleurs dans la maison? 10%, ou je ne sais pas, mais on passe beaucoup plus de temps en dehors de la chambre couchée. Alors, je pense que ce n'est pas le fondement, je crois que c'est le respect, l'amour mutuel l'un pour l'autre, et l'intimité, c'est le fondement. À le même temps, je ne le vois pas comme le sexe dans le mariage, comme un accessoire, comme quelque chose, on peut le prendre, on peut le vivre, on peut le laisser à côté. C'est pas, on peut pas dire, oh, on va juste, ça me tente pas de jamais avoir le rapport sexuel. Et vivre comme les frères et sœurs. Je pense que l'intention de Dieu, c'est qu'encore une fois, qu'on profite, mais on travaille cette partie de notre couple. Alors, parce que c'est ça, on a été créé pour aussi d'avoir, d'exprimer cette intimité dans le couple. Alors, on y va à la prochaine. On ne voit pas très bien, mais ça, c'est une feu de forêt. Et ça, c'est un peu représentatif de qu'est-ce qui se passe si cette feu de la passion brûle en dehors de le cadre que Dieu nous a donné. Je pense que ça amène beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés, le chaos et beaucoup les cœurs brisés. C'est ça que je pense. Et on va voir l'impact aussi de tous les rapports sexuels illicites. Qu'est-ce que ça peut faire dans notre cœur? Alors, est-ce que Dieu nous a donné un bon cadre? Est-ce que vous croyez qu'il a les bonnes intentions, les bonnes idées, un bon dessein pour nous? Je crois, oui. J'ai vécu en dehors de ce cadre et j'ai vécu ça. J'ai vécu dans le cadre de le mariage et je vis une sexualité, pas sans difficulté des fois, mais épanouie avec la grâce de Dieu. Et je crois que c'est très important que lorsqu'on parle de la sexualité, qu'on inclut Dieu dans nos discours et dans notre conversation et dans nos rapports. Yves et moi, on prie. On invite Dieu. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il se réjouit dans le bon contexte. Okay. Parce que c'est lui, c'est son intention pour nous. Mais on va regarder dans la prochaine session quand même certaines de nos difficultés, certains de nos défis, nos luttes sexuelles, parce que, comme je dis, je sais que ce n'est pas facile, même si Dieu a un bon plan, on sait que ce n'est pas facile, surtout en tant que célibataire, mais je peux vous dire aussi, ceux qui vous êtes mariés, il y a les défis aussi. Alors, on va parler de ça, nos défis, nos difficultés, nos luttes sexuelles après la pause.